Et c'est marquant, Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce qu'un essai ? C'est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques, etc. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre. Il a un titre un peu long, le voici. « Les milliardaires ne paient pas d'impôts sur le revenu et nous allons y mettre fin ». On a beaucoup parlé de ce livre dans les semaines qui ont précédé. Il est écrit par Gabriel Zucman, publié au Seuil dans la collection Libelle, le Seuil Libelle. Petit livre très court, très ramassé, 49 pages. De lecture, hein, après il y a quelques addendums, et il coûte la modeste somme de 6,90 €. Alors l'auteur Gabriel Zucman, c'est un jeune homme, enfin si je puis dire, il est né le 30 octobre 86 à Paris, c'est un économiste franco-américain, donc il a réussi le concours en sciences sociales de l'école normale supérieure Paris-Saclay, il a suivi avant cela la classe préparatoire au lycée Henri IV à Paris, il a étudié à la Paris School of Economics et il a obtenu le master analyse et politique économique. Il a cofondé la revue Regards croisés sur l'économie, dont il est rédacteur en chef pendant quelques années, de 2006 à 2013. Il obtient un doctorat en sciences économiques à l'École des hautes études en sciences sociales en 2013. Et il a rédigé sa thèse « Trois essais sur la répartition mondiale des fortunes » sous la direction de quelqu'un que l'on connaît bien, qui s'appelle Thomas Piketty. Il est donc docteur en sciences économiques de l'École des hautes études en sciences sociales. Il enseigne un temps l'économie à la London School of Economics et puis il est devenu professeur à l'Université de Californie à Berkeley à partir de 2019. Il est également professeur à l'École normale supérieure de Paris et directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. Il est connu pour ses travaux sur les inégalités sociales et de revenus, sur les paradis fiscaux aussi. Et puis, vous le savez, sa proposition de taxe Zucman, une nouvelle imposition minimale sur le patrimoine des grandes fortunes, a pas mal défrayé la chronique. On en a beaucoup parlé. Elle vise, selon ses travaux, à corriger l'optimisation fiscale et à rétablir un principe d'égalité devant l'impôt. Alors, tout cela est édité par les éditions du Seuil, maison d'édition française créée en 1935, qui appartient au groupe Média Participation depuis 2017. Une maison d'édition qui a une histoire créée avant la Seconde Guerre mondiale par un groupe d'inspiration catholique réuni autour de l'abbé Plaquevent. On a déjà eu des livres du Seuil ici, je vous en avais parlé. C'est une maison d'édition qui va jouer un rôle majeur dans la production littéraire et intellectuelle en France à partir de l'après-guerre, sous la direction de Jean Bardet et Paul Flamand. Elle doit son nom à cet objectif, ouvrez les guillemets, c'est la lettre de l'abbé Plaquevent du 28 décembre 1934, Plaquevent, je le cite, « Le Seuil, c'est tous les mois du départ et de l'arrivée, c'est aussi le seuil tout neuf que nous refaisons à la porte de l'église pour permettre à beaucoup d'entrer, dont le pied tâtonnait autour. Le Seuil a bien évolué depuis l'abbé Plaquevent, mais vous l'avez compris. Il a particulièrement développé la publication de littérature internationale et d'essais en sciences humaines et sociales, alerté, informé, questionné. Voilà, c'est les mots-clés de la collection Libelle, qui a vocation à recueillir les textes courts d'auteurs engagés, creusant l'information, devançant les débats. Un prix attractif, vous l'avez compris, des formats brefs, hein, c'est finalement un court essai ou un long article. C'est poussé par l'érosion du débat public et le déclin de la presse papier que le Seuil a voulu proposer des réponses argumentées rapides aux prises d'opposition, souvent trop tranchées. C'est un espace de liberté pour les essayistes, un espace d'information et de nuance. « Alors, c'est des livres qui ont la particularité de ne pas avoir de quatrième de couverture. Hein, sur la première, parfois, le texte est un peu développé, ce qui nous donne l'essentiel du texte. Là, c'est le titre qui en tient lieu, je le rappelle. « Les milliardaires ne paient pas d'impôts sur le revenu et nous allons y mettre fin ». Il n'y a pas non plus de table des matières, ce n'est pas un bloc, il y a des tout petits chapitres, mais il n'y a pas de table des matières. Alors je vais vous lire rapidement deux passages, j'en ai choisi un, page 34. Alors il y a toujours une petite phrase mise en exergue avant de commencer le développement. Dans ce que j'ai choisi, cette phrase est la suivante, « L'impôt plancher ». Deux points, l'outil le plus puissant pour faire payer les milliardaires. L'instrument que je propose, la création d'un taux minimum d'imposition pour les ultra-riches, constitue à mes yeux l'aboutissement logique des statistiques et des expériences historiques que je viens de résumer. Il s'agit d'affirmer un nouveau principe, celui selon lequel, pour une personne immensément fortunée, l'imposition personnelle ne devrait pas pouvoir tomber en dessous d'un plancher incompressible. Dans un rapport que j'ai remis au G20 en 2024, détaillant pour la première fois ce dispositif, je proposais que ce minimum soit fixé à 2% du patrimoine et que les personnes immensément fortunées soient définies comme celles dont la richesse s'élève à 100 millions de dollars ou plus. J'estimais qu'une telle mesure pourrait rapporter entre 300 et 380 milliards de dollars chaque année à l'échelle planétaire, 67 milliards d'euros au niveau européen, d'après les calculs réalisés avec mes collègues de l'Observatoire européen de la fiscalité. Et une deuxième citation, alors celle-là je l'ai prise, bon, on revient un peu en arrière, si je la retrouve, je l'avais prise à la page 15, le taux effectif des milliardaires en France, c'est le petit intertitre. Le taux effectif des milliardaires en France, 13%. Toutes sauf une, les milliardaires, car des économistes ont pris le relais là où la statistique publique s'arrête au prix d'un travail titanesque. En France, ce sont quatre chercheurs de l'Institut des politiques publiques qui ont pu, comme l'INSEE le fait pour d'autres catégories sociales, estimer le revenu national des ultra-riches et le montant d'impôt total dont ils s'acquittent en remontant les chaînes de détention pyramidale pour identifier les bénéfices revenant véritablement aux grandes fortunes. Leur conclusion, le taux de prélèvement obligatoire s'effondre pour ces derniers à 25% tout compris. Les milliardaires, qui sont au nombre d'une centaine environ, paient proportionnellement leurs revenus deux fois moins d'impôts que la moyenne des Français. Pour un euro de revenu national gagné par les premiers, quelle que soit la façon dont cet euro est touché, 25 centimes environ vont au fixe, contre 51 centimes pour le Français moyen. Certains milliardaires ont des taux inférieurs à 25%, d'autres supérieurs. Mais ils sont, dans leur ensemble, nettement privilégiés. Cet effondrement est une raison principale, la faillite de l'impôt sur le revenu, qui s'évapore littéralement au sommet de la pyramide des richesses, puisqu'il ne représente que 2% du revenu des milliardaires. Cet évanouissement est censé en partie compenser par la montée en puissance de l'impôt société, qui absorbe 23% de leurs revenus. Mais cette soupape de sécurité, prélevée à un taux forfaitaire unique, est bien trop faible pour compenser la disparition de l'impôt progressif individuel. Alors, il n'y a pas véritablement de conclusion de cet essai, mais enfin, on peut quand même retenir quelques phrases de Gabriel Zucman qui nous dit, comme au moment du vote de l'impôt sur le revenu au début du XXe siècle, les adversaires de cette mesure prédisent de multiples catastrophes, mais leurs craintes sont infondées. La croissance et l'innovation n'ont pas été annihilées par l'impôt progressif sur le revenu. C'est l'inverse qui s'est produit. La productivité a été multipliée par 10 depuis 1914. Or, un impôt plancher sur les ultra-riches ne fera que parachever la révolution entamée il y a un siècle, en soumettant aux règles communes les très grandes fortunes qui, aujourd'hui, y échappent. Après, il nous parle également de le pouvoir que procure la grande richesse, qui même, aussi fluctuante soit-elle et même sans rendement, procure un pouvoir, nous dit-il, qu'on ne saurait ignorer. C'est ce qui se passe depuis des siècles pour les patrimoines immobiliers. Il nous parle aussi de tout ce que l'on peut faire quand on est, quand on a des revenus extrêmement importants. Et il nous parle de cette taxe qui est appelée taxe Zuckmann aujourd'hui, en nous disant, tout laissant penser que cette évolution aurait à tout prendre des effets économiques positifs, car l'expérience historique montre qu'une meilleure implication des salariés et une plus grande répartition des pouvoirs au sein des entreprises sont associées à davantage de productivité. Et voilà, après, il développe effectivement cette théorie. Alors, pourquoi faut-il lire ce livre ? Il est écrit d'abord pour ceux qui ne sont pas familiers de la fiscalité. Et il en est beaucoup, ce qui est parfaitement normal, c'est un peu compliqué, un peu aride. Mais pour autant, c'est un texte clair, qui est précis, compréhensible par tout un chacun et qui invite à une révision et à une modernisation de notre fiscalité. Le monde change, l'économie évolue, les rapports humains et financiers aussi. Il est donc naturel que la fiscalité s'adapte à ces nouvelles donnes et surtout, il est impératif que nous soyons tous égaux devant l'impôt et que chacun l'acquitte en fonction de ses revenus, sous quelque forme que ceci soit perçu. Alors, son rendement est moins important que le principe d'égalité de tous devant la charge commune, mais bien évidemment, vous le comprenez, dans des temps de disette financière et d'endettement important du pays, toute perception d'impôt est la bienvenue. Donc, les milliardaires tels que définis par Zuckmann dans son court essai ne peuvent continuer à rester en marge de la nation, à profiter de ses avantages sans contribuer à la charge commune. C'était Essai marquant par Jacques Lavergne avec à la réalisation Chacha Gauchy que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à toutes et à tous.